Bonjour Frédéric Lefebvre.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous inspire la journée du hijab, le voile musulman, organisé hier à Sciences Po ?
Oh, c'est une provocation puérile sur laquelle je n'ai pas envie de m'attarder, qui participe à divertir l'opinion, c'est-à-dire à détourner les gens de l'essentiel, qui ne sert pas la cause des femmes, qui ne sert pas plus la cause des femmes musulmanes. Et je pense que, voilà, tout est dit, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce genre de choses.
L'état d'urgence va être prolongé jusqu'à fin juillet pour répondre aux nécessités de sécurité de l'Euro de football. Vous soutenez, vous le voterez ?
Bien sûr, c'est une évidence.
Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être prévoir dès le départ une instauration plus longue plutôt que à répétition se demander si on le prolonge ?
Non, je pense que c'est assez sain au contraire de se poser la question régulièrement puisque c'est une procédure exceptionnelle et en l'occurrence, vous l'avez dit vous-même, l'Euro fait qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faut qu'elle soit prolongée.
Le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, a-t-il raison de lancer un ultimatum au gouvernement sur la loi travail en menaçant de quitter les négociations sur l'UNEDIC ?
C'est la loi travail, d'abord, moi je vais déposer une trentaine d'amendements sur ce texte. Cette loi travail, elle nous a été présentée. J'ai d'ailleurs dit, peut-être vous en souvenez-vous, que je la voterai et que j'appelais ma famille politique à la voter.
Dans la version 1
Dans la version 1. La version 2, on la connaît pas vraiment totalement. Enfin, on la connaît, mais on ne sait pas dans quelle mesure elle va être encore modifiée au Parlement. Donc, je comprends en tout cas que Pierre Gattaz, qui a été associé à la construction du texte, soit inquiet sur la suite. Après, pour le reste, attendons tous avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité le débat parlementaire. Et moi, je vais essayer d'enrichir ce texte. Je ne voudrais pas que ce soit une occasion manquée.
Pour le rapprocher de ce qu'il était initialement ?
Oui, et puis sur certains points d'ailleurs, pour aller plus loin, et puis sur d'autres, proposer des modifications, parce que je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il y a dans le texte. Mais voilà, faisons un vrai débat. Vous savez, rappelez-vous, je crois même que j'avais demandé à votre antenne, ça fait plus d'un an que je demande un Grenelle de l'emploi. Si on avait réuni, si le président de la République, comme je l'y invitais, avait réuni droite et gauche autour de la table avec les représentants des professionnels, les syndicats et les associations sur cette question de l'emploi, on aurait pu trouver des terrains d'entente qui auraient évité ces déchirements sur cette loi.
Vous souhaitez, Frédéric Lefebvre, être candidat donc à la primaire de la droite. Avant d'en venir aux idées que vous souhaitez défendre, est-ce que vous aurez les parrainages nécessaires, les signatures, comme on dit, pour la présidentielle ?
Ça fait 3 mois, jour pour jour, ouais, que j'ai annoncé ma candidature. J'ai parcouru la France mondiale et de l'Hexagone. Hier, j'étais à La Haye. Il y a quelques jours, j'étais à Los Angeles. J'étais à Bruxelles avant-hier. De la même façon, je serai à Toulouse. Je serai dans le 93 et je prolonge ces déplacements. Il faut bien comprendre que je suis pas dans la séduction d'une caste politique. Moi, je m'adresse à toute la nation. D'ailleurs, j'en profite puisque je défends cette France mondiale et cette France universelle pour dire à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde qu'aujourd'hui, s'ils veulent bousculer le système, ils peuvent m'apporter leur soutien. Je pense que, au-delà d'ailleurs des formations politiques, vous savez, qu'ils soient de droite, de gauche, moi je souhaite aujourd'hui travailler avec la droite et avec la gauche. D'ailleurs, je ne sais pas un souhait simplement, je le fais jour après jour. Et pour répondre précisément à votre question, je serai qualifié en septembre, si
vous aurez
vous inquiète.
Les soutiens parlementaires nécessaires. L'un des thèmes que vous allez défendre pendant cette campagne, que vous défendiez déjà auparavant, c'est le revenu universel. En quelques mots, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, c'est un revenu qui viendrait se substituer à toutes les allocations, toutes les formes d'aide qui existent. Ça coûte cher à l'État ou pas, ça ?
Il faut changer de logiciel. J'étais, je vous disais, aux Pays-Bas hier, j'étais à Utrecht. Mmh. Utrecht, il y a une expérimentation qui va être lancée, sur laquelle, ça y est, elle est modélisée, avec 5 groupes qui vont être identifiés, et pendant 1 an et demi, 2 ans, avec des scientifiques qui vont participer à ces travaux. Et d'ailleurs, Michel Sapin, qui avait écarté d'un revers de main cette idée que je défends depuis des années et que aujourd'hui sur laquelle je travaille avec des gens de gauche et des gens de droite d'ailleurs, Michel Sapin est lui-même aux Pays-Bas aujourd'hui. Donc j'en profite, je l'invite à beaucoup écouter et discuter sur cette question puisque aujourd'hui j'ai vu avec bonheur que beaucoup adhéraient à cette idée que je défends, y compris au gouvernement, y compris le Premier ministre. Et je veux dire combien il faut ne pas simplement s'arrêter au milieu du guet. C'est-à-dire que derrière les mots, et je viens sur le dispositif, il faut aller vers la réalité.
Sur c'est l'intérêt économique de la démarche.
C'est exactement l'inverse de l'assistanat avec l'idée de prolonger le RSA pour les jeunes. Bon, c'est exactement l'inverse. Il faut changer de logiciel. On remplace l'ensemble des allocations qui existent par un filet de sécurité sans condition pour tout le monde. Évidemment derrière, il faut des
et sans condition de ressources
du financement,
sans condition de ressources,
sans condition de ressources,
y compris les gens très fortunés,
mais qui le remboursent tout de suite par l'impôt, bien sûr, mais qui peuvent à tel ou tel moment, parce que ça peut arriver à tout le monde dans la vie, se retrouver avec une difficulté. De la même façon, vous avez les jeunes, et moi je pense que c'est dès la naissance que parce que ça doit remplacer aussi le maquis social de toutes les allocations qui pourront avoir un pécule pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir créer une entreprise, passer leur permis de conduire. Enfin, aujourd'hui, il faut redonner la main et la liberté aux citoyens. Le revenu universel, c'est ce changement de logiciel. Beaucoup de pays le font. Et vous savez, on n'a pas le choix, en réalité. Quand vous avez devant vous le MIT à Cambridge, dans ma circonscription, qui dit que 50% des emplois d'aujourd'hui sont automatisables. Quand vous avez ce débat sur la dépendance, l'allongement de la vie, les personnes dépendantes, c'est chiffré, les modèles les plus optimistes le chiffrent à 7 milliards ou 8 milliards et demi. On est à peine capable aujourd'hui de mettre 800 millions sur la table. Et on a un modèle social qui est à bout de souffle. Regardez, 74... On était à 400 000 chômeurs, on est à plus de 6 millions. On a 8 millions et demi de pauvres. Et pour comprendre le logiciel, je vous l'explique en deux mots. Oui. L'Utah, un État aux États-Unis, dans ma circonscription, sur les sans-abri.
Oui, rappelons que vous êtes député des Français de l'étranger.
Député des Français qui sont aux États-Unis, au Canada. Et j'aime me nourrir de cette expérience de la France mondiale. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on va régénérer ce pays. L'Utah, vous avez des sans-abri de plus en plus nombreux. On décide dans l'Utah de faire le calcul précis de ce que coûtent les sans-abri, coûts directs et indirects. Mmh. On ajoute donc la prison, l'hospitalisation d'urgence, la destruction du matériel et des équipements publics. On a 16 870 dollars par an par sans-abri. On fait le même calcul en disant si on les loge et si on les fait suivre par un acteur social 7 jours sur 7, on est à 11 000 dollars, c'est-à-dire un tiers de moins. Un tiers de moins. Il lance le plan il y a 10 ans. Il y a 3 mois, ils font le bilan. 75% des sans-abri de l'Utah ont un logement, sont suivis par un acteur social, et ça coûte un tiers de moins à la collectivité.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que ça
marche. C'est ce changement logiciel. Ouais. Savez-vous que le modèle social en France aujourd'hui, je parle des coûts de gestion, je parle pas de l'argent qui va dans la poche de nos compatriotes, je parle des coûts de gestion. C'est entre 32 et 42 milliards, suivant ce que vous mettez. Parce que quand vous avez un système conditionné comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez une administration qui crée les conditions, vous avez celle qui contrôle. Comme c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient toucher le RSA, qui sont dans la rue, qui ne peuvent pas tellement, c'est compliqué. Il faut les accompagner. Puis il y a ceux qu'on veut sanctionner, parce que au contraire, ils profitent du système. Tout ça, tout ce bazar, ce maquis social, c'est la moitié du déficit de la France, qui est, je vous rappelle, de 73 milliards.
Marine Le Pen se dit également intéressée par cette idée. Vous pourriez en parler avec elle ?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis très heureux de voir des adhésions, et vous pourriez d'ailleurs parler du porte-parole du parti écolo. Mais pour vous dire très précisément, Marine Le Pen, elle défend le ni droite ni gauche. Ouais. Moi, je défends, au contraire, le droite et gauche. C'est-à-dire que je considère aujourd'hui que sur ces sujets qui sont majeurs pour le pays, on doit s'additionner. Quand on me montre en disant et on veut nous faire peur avec l'UMPS, moi je l'assume.
Merci Frédéric Lefebvre. Bonne journée.